Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Paru initialement au Seuil en 2014 et repris en collection Points Essai en 2021. Pour une écologie de l'attention est un essai de théorie sociale, politique et médiatique. Yves Citon y examine la place prise par la captation de nos disponibilités mentales dans les sociétés contemporaines. Son point de départ ne consiste pas à condamner simplement les écrans ni à annoncer une disparition générale de la concentration. Il analyse plutôt les régimes qui organisent, orientent et valorisent ce que chacun remarque, néglige, partage ou désire. Publicité, médias de masse, dispositifs numériques et logique économique participent ainsi à une concurrence pour une ressource limitée. Face à une économie qui traite cette ressource comme une marchandise, Citon propose une écologie de l'attention. Celle-ci invite à considérer les interdépendances entre individus, techniques, institutions et milieux de vie. Le livre articule donc diagnostic, critique et recherche de pratiques collectives capables de rendre nos formes de vie plus soutenables, plus attentives aux autres et moins soumises aux impératifs de rentabilité. Je vais vous présenter les clés de ce livre. Premièrement, l'attention comme ressource disputée plutôt que simple faculté individuelle, Citon déplace une représentation courante de l'attention. Elle ne relève pas seulement de la volonté ou de la discipline personnelle. Comme si chaque personne pouvait librement décider de se concentrer au milieu de sollicitations illimitées. Elle est aussi une ressource sociale disputée. Les entreprises médiatiques, les annonceurs et les plateformes cherchent à attirer des regards, du temps et des réactions. Car cette disponibilité peut être transformée en audience, en données ou en consommation. Le problème prend alors une dimension économique et politique. Quand la captation devient un objectif central, les contenus et les dispositifs tendent à privilégier ce qui retient rapidement, provoque ou se répète, au détriment de ce qui exige lenteur, contextualisation et discussion. Cette analyse ne réduit pas les publics à des victimes passives. Elle montre plutôt que nos orientations attentionnelles se forment dans des environnements organisés par des intérêts, des habitudes et des infrastructures. Parler de temps de cerveau disponible met en lumière cette conversion du vécu mental en valeur marchande. L'enjeu du livre est donc de rendre visible ce qui paraît ordinaire. Regarder, cliquer, écouter ou relayer une information sont des gestes qui participent à des circuits de valorisation. Comprendre ces circuits est une condition pour pouvoir les modifier collectivement au lieu de faire peser toute la responsabilité sur les seuls individus. Deuxièmement, une crise permanente antérieure au numérique et sans fatalisme technologique. Le livre se distingue des récits qui attribuent tous les troubles attentionnels au téléphone ou au réseau numérique. Citon inscrit la crise de l'attention dans une histoire plus longue des médias, de la publicité et du capitalisme industriel. Chaque période voit apparaître des techniques capables de reconfigurer la perception, d'accélérer la circulation des signes et de susciter des inquiétudes sur la distraction. Cette continuité historique ne banalise pas les mutations actuelles. Les technologies numériques renforcent la mesure, la personnalisation et la prévisibilité des conduites attentionnelles, ce qui peut intensifier leur exploitation. Mais elle ne crée pas de toutes pièces le phénomène. Cette perspective évite deux impasses. La première consiste à idéaliser un passé supposément préservé de toute dispersion. La seconde revient à considérer les usagers comme irrémédiablement diminués par leurs outils. Citon invite plutôt à étudier les transformations concrètes des pratiques. Certaines formes de concentration peuvent être fragilisées, tandis que de nouvelles compétences de sélection, de navigation ou de coordination émergent. La question décisive est moins de savoir si l'attention disparaît que de déterminer quelles attentions sont favorisées, au bénéfice de qui et avec quelles conséquences. Le diagnostic devient ainsi plus précis que la dénonciation vague de la surcharge informationnelle. Il rend possible une critique des architectures économiques qui organisent les sollicitations, sans confondre toute innovation technique avec une catastrophe culturelle. Troisièmement, de l'économie de l'attention à une écologie des milieux relationnels. Le terme écologie ne désigne pas ici une simple méthode de gestion personnelle du temps ou des notifications. Il sert à opposer deux manières de concevoir l'attention. Une économie de l'attention la traite principalement comme une unité rare à capter, à mesurer et à rentabiliser. Une écologie s'intéresse aux conditions de coexistence entre des attentions diverses, aux milieux qui les nourrissent et aux effets produits sur les relations humaines. Cette approche élargit le problème au-delà de la productivité. Une attention constamment mobilisée par des signaux commerciaux peut réduire la disponibilité pour la conversation, la perception du proche, la réflexion ou le soin porté aux réalités environnementales et sociales. Inversement, des institutions et des pratiques peuvent aménager des rythmes favorables à la curiosité, à la coopération et à la durée. Citon ne propose donc pas seulement de protéger un capital mental individuel. Il interroge la qualité collective de ce que nous rendons visible et important. l'écologie de l'attention implique de reconnaître que nos perceptions sont interdépendantes. Ce que les médias amplifient, ce que les écoles valorisent et ce que les groupes partagent contribue à définir un monde commun. Cette dimension distingue le livre de nombreux guides de déconnexion. Son horizon est politique et relationnel. Il ne s'agit pas uniquement de récupérer du calme, mais de transformer les agencements qui déterminent la répartition de notre disponibilité et les objets auxquels elle est consacrée. Quatrièmement, le calcul des comportements et le risque de réduction de la sérendipité, Citon accorde une importance particulière aux dispositifs qui cherchent à anticiper les conduites. Lorsque les traces laissées par les usagers permettent de calculer des préférences probables, les acteurs techniques et commerciaux peuvent ajuster les contenus afin de maximiser la rétention. Le danger ne tient pas seulement à la quantité de messages reçus. Il réside dans une attention de plus en plus préformatée par des prédictions où les choix proposés correspondent à ce qui semble déjà attendu de chacun. Une telle organisation peut limiter la rencontre avec des objets imprévus, des points de vue discordants ou des expériences qui ne se laissent pas facilement convertir en indicateurs. Citon associe cette question à la nécessité de préserver une part de hasard, de disponibilité et de surprise dans les parcours attentionnels. Il ne défend pas une ignorance romantique des techniques de calcul. L'analyse vise plutôt la puissance sociale de systèmes capables d'orienter les perceptions avant même que les personnes puissent délibérer sur leurs préférences. Cette critique éclaire la différence entre assistance et pilotage. Un outil peut faciliter la découverte, mais il peut aussi enfermer progressivement les individus dans des profils et des répétitions. L'écologie de l'attention demande donc de regarder les règles de sélection, les intérêts qui les déterminent et les marges laissées à la bifurcation. Elle relie ainsi la question des données à celle de l'autonomie perceptive et de la pluralité des mondes accessibles. En dernier lieu, éduquer et organiser l'attention comme responsabilité collective, les pistes ouvertes par Citon concernent autant la pédagogie que la vie civique. Si les régimes attentionnels sont façonnés par des environnements, apprendre à faire attention ne peut se réduire à recommander davantage de maîtrise de soi. Il faut créer des situations où les personnes apprennent à observer, à écouter, à différer une réaction et à reconnaître ce qui échappe aux sollicitations les plus visibles. Dans le cadre éducatif, cela suppose de valoriser des expériences qui mettent en relation avec les autres, avec les milieux et avec des objets demandant une exploration durable. Les laboratoires d'attention en extérieur évoqués autour de cette pensée illustrent cette orientation. Ils permettent de travailler le regard porté sur un environnement, plutôt que de concevoir l'attention comme une performance abstraite. Sur le plan politique, le livre invite à examiner les formes de régulation, de programmation et de médiation qui déterminent ce qui obtient une visibilité massive. La réappropriation de l'attention est collective parce que les conditions de son exercice le sont aussi. Les choix éditoriaux, les modèles publicitaires et les normes techniques influencent les possibilités de délibération. Citon ne fournit pas une recette universelle de sobriété numérique. Il fournit un cadre pour évaluer les pratiques selon une question exigeante, favorise-t-elle des relations soutenables et une capacité accrue à prendre soin de ce qui compte. Ou accentue-t-elle la mobilisation profitable de chaque instant disponible? En conclusion, pour une écologie de l'attention conviendra aux lecteurs de sciences sociales, de philosophie politique, de théorie des médias et de pédagogie qui veulent dépasser les diagnostics rapides sur la distraction numérique. Il intéressera aussi les personnes engagées dans l'enseignement, la création culturelle, le journalisme ou la conception de services numériques, car il fournit un vocabulaire pour interroger les effets collectifs de la captation attentionnelle. Son apport pratique ne se présente pas comme un programme de productivité ou une méthode de sevrage. Il aide plutôt à identifier les cadres matériels et économiques qui orientent les comportements, puis à imaginer des institutions, des rythmes et des pratiques plus hospitaliers pour la réflexion, la relation et le soin. Sur le plan intellectuel, le livre permet de relier la publicité, les médias, les données et la crise écologique dans une même réflexion sur la répartition de ce qui devient perceptible et digne de considération. Il se démarque des essais alarmistes par son refus de faire du numérique la cause unique de tous les maux. Il se distingue également des conseils individualistes en traitant l'attention comme un bien relationnel et politique. Cette double orientation, historique et normative, donne à son propos une portée durable. Citon ne nie ni les risques de la captation marchande, ni les difficultés de concentration, mais il refuse de les transformer en fatalité. Le lecteur y trouvera surtout des outils pour penser les conditions d'une attention moins calculée, plus plurielle et plus consciente de ses interdépendances. Si vous souhaitez soutenir Yves Citon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.